L'actualité des idées dans la dernière partie de La Grande Table avec Antoine Mercier. La gauche a-t-elle encore un projet? Avec l'économiste Thomas Piketty, notre invité aujourd'hui, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, professeur également à l'École d'économie de Paris, auteur de travaux historiques et théoriques consacrés à la relation entre développement économique et répartition des richesses. Son best-seller, Le Capital au XXIe siècle, apparu en 2013. Il y démontre comment le capitalisme produit mécaniquement des inégalités, concentrant la fortune entre les mains d'une minorité d'héritiers par une rentabilité du capital supérieure à la croissance à laquelle sont liés les revenus du travail. Autre ouvrage important, ressorti au point l'an passé, Les hauts revenus en France au XXe siècle, tableau d'un siècle d'inégalité des revenus à partir d'une analyse de la fiscalité. Enfin, notre invité est l'auteur de 3 recueils de chroniques. Vive la gauche américaine, paru aux éditions de l'Aube. Peut-on sauver l'Europe au lien qui libère? Et toujours au lien qui libère, dernièrement, aux urnes citoyens, recueil de chroniques parues dans Libération et dans Le Monde entre janvier 2012 et septembre 2016, analysant des problématiques tant françaises qu'internationales, nécessaire démocratie et confrontation des idées, besoin de régulation du capitalisme, absence de fatalité dans les inégalités, relations aussi entre le Moyen-Orient et la France, notre place dans l'Union européenne, exhortation à une révolution fiscale française, la gestion à court terme de la crise par nos gouvernements, beaucoup de sujets. Il donne aussi son point de vue sur l'école le mercredi, la mixité sociale à l'école, la laïcité, la politique migratoire, tour d'horizon presque complet, vous l'aurez compris, dans ce recueil de chroniques aux urnes citoyens de la pensée piquetienne. Bonjour Thomas Piketty.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. En janvier dernier, avec une quinzaine d'intellectuels, vous lanciez dans Libération l'appel, notre primaire pour une primaire qui rassemble toutes les gauches, Paris manqué. Après le renoncement de François Hollande, l'EPS a mis en place sa propre primaire. En décembre, vous co-signez une nouvelle tribune, vous y croyez encore. À gauche, tout n'est pas perdu. Nouvel appel au rassemblement. Paris, malheureusement, encore manqué. Candidats et partis ne vous ont pas suivi. Mélenchon, Macron, Jadot poursuivent en solitaire. Le Parti Socialiste se cherche encore, lui, un candidat. D'ailleurs, ce sera ce soir à 21h, le premier débat télévisé de la primaire à gauche, qui aura lieu les 22 et 29 janvier. Vous regarderez ce débat ce soir?
Oui, je regarderai ce débat. Moi, j'essaye de remettre en perspective les débats actuels dans une perspective historique, longue. Mon travail, c'est d'abord un travail de chercheur en sciences sociales sur l'histoire des revenus, des successions, des patrimoines. Et la leçon générale qui se dégage de l'histoire, c'est qu'il y a toujours, contrairement à ce qu'on dit parfois, il y a toujours des alternatives. Il y a toujours différentes façons de régler un même problème. Des crises de la dette publique, des crises inégalitaires, on en a déjà eu dans le passé. C'est jamais simple, mais il y a différentes façons de les régler. Cette primaire à gauche, c'est pas ça qui va résoudre tous ces problèmes, mais au moins ça crée un espace de débat. Moi, j'aurais préféré évidemment que ça ait lieu plus tôt. Je pense que la gauche a perdu tout cet automne à ne pas débattre, tout ça parce qu'il fallait attendre que François Hollande daigne se décider au mois de décembre. Donc tout ça pour en arriver là, on aurait mieux fait de débattre tout cet automne en même temps que la droite, parce que là, Mélenchon, Macron sont partis, ça devient assez difficile de les ramener. Il reste que c'est quand même mieux d'avoir ce débat pour choisir une candidature. Donc oui, je vais regarder ce soir.
Vous avez dit que personne ne vous comprend vraiment.
Oui, mais en même temps, c'est facile de rester chez soi et de dire, voilà, j'attends le roi philosophe parfait avant d'aller voter. Donc, moi, j'irai voter à cette primaire et j'encourage tout le monde à aller voter parce que je pense que c'est d'abord cette mobilisation, même si le système est imparfait, même si la primaire aurait dû se produire plus tôt, même si surtout elle aurait dû être beaucoup plus largement ouverte parce que par la faute de François Hollande, de Manuel Valls et de quelques autres, on a repoussé Mélenchon en dehors de la primaire. Bon, il s'est un peu repoussé tout seul aussi, donc il y a des responsabilités des deux côtés. Mais quels que soient ces défauts du système, je pense que ce débat est important. Et on va se rendre compte qu'il y aura quand même du monde qui ira voter la semaine prochaine et la semaine suivante. Alors après, tout dépend à quoi on compare, mais on verra. Vous savez, les donateurs qui donnent de l'argent au mouvement d'Emmanuel Macron, je crois que c'est à peu près 15 000 personnes. Et sur les 4 millions d'euros qu'ils ont donnés, il y en a sans doute l'essentiel a été venu de 500 personnes, peut-être, même s'ils refusent de nous donner les chiffres. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à la primaire de la gauche, la semaine prochaine, il y aura sans doute 50 fois 15 000 personnes, 100 fois 15 000 personnes. Donc ça restera insuffisant, mais je veux dire, cette mobilisation et ce débat, il est important. Parce que l'enjeu quand même aujourd'hui, c'est qu'on a, après l'élection de Trump, après le Brexit, on peut plus feindre de croire que tout va toujours bien se dérouler. C'est-à-dire qu'il y a, moi j'ai très peur concrètement que en cas de second tour Le Pen-Fillon, on est quelque chose de beaucoup plus serré que ce qu'on imagine aujourd'hui, et et le coup suivant encore plus. Donc la situation est quand même extrêmement, extrêmement grave.
Donc Thomas Piketty, vous en attendez quelque chose de ce débat, ce qui est déjà pas mal. Vous attendez quelque chose encore du Parti Socialiste, ce qui est aussi un indicateur intéressant vous concernant, sinon vous ne regarderiez pas. Ouais. La question, c'est est-ce que vous allez prendre position, alors pas avant pour l'un des candidats, mais après, quand l'offre à gauche sera connue et complète?
Oui, moi, je fais pas de mystère que l'enjeu, ça va au-delà du Parti Socialiste. Moi, j'ai jamais été membre du Parti Socialiste. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est de savoir est-ce qu'on est condamné à avoir un second tour Le Pen-Fillon ou pas. Et je pense que, pour finir, le candidat, cette primaire, ça reste, ça aurait été, on y est bien meilleur outil si Mélenchon y avait participé, mais ça reste le meilleur outil pour essayer de faire un rassemblement au premier tour. Je pense que rien n'est joué. Et surtout, dans tous les cas, moi, ce qui me paraît important dans le choix qu'il va y avoir sur cette primaire, c'est que dans le débat présidentiel qui va venir, on ne laisse pas la critique de l'Europe et la critique des règles budgétaires qui ont été mises en place en Europe. Et la grande erreur de la gauche en 2012, ça a été de ne pas remettre en cause ce traité budgétaire européen de 2012, qui est un mauvais traité et qui nous plonge dans la récession. Il ne faut pas laisser cette critique de l'Europe uniquement à Marine Le Pen, qui risque d'en profiter très fortement. Jean-Luc Mélenchon porte une autre forme de critique qui est plus internationaliste que celle de Marine Le Pen, évidemment, mais qui en même temps quand même ne fait pas, à mon sens, pour l'instant, des propositions suffisamment constructives de refondation démocratique de l'Europe. Et entre les deux, pour l'instant, on a un candidat de la droite, Fillon, un candidat du centre, Macron, qui sont pour le statu quo. D'ailleurs, tous les deux sont à l'origine du traité budgétaire européen adopté en 2012, préparé sous Fillon et Sarkozy, et finalement, malgré toutes les promesses appliquées, votées sous Hollande et Macron et Valls, je pense que ce serait très dangereux si
les sept candidats.
Il y a quand même aussi un Emmanuel Macron qui dit être le seul à parler de l'Europe aujourd'hui, qui dit aimer l'Europe, qui dit que l'Europe doit être un rempart contre la mondialisation.
Oui, ça c'est sûr, mais pas l'Europe qu'on a là actuellement. Sauf que là, il faut être très précis. Je pense qu'il y a quand même une responsabilité historique des gouvernements français, d'ailleurs successifs, Sarkozy, Fillon, puis Hollande, Macron, Valls, dans les erreurs qui ont été faites en 2012. Donc concrètement, ce nouveau traité budgétaire européen de 2012, je crois qu'il faut remettre ça en perspective. On a durci considérablement les règles budgétaires. Ce que nous enseigne l'histoire, c'est que quand on a ce niveau d'endettement public, on ne peut pas s'en sortir avec des mesures ordinaires d'avoir des excédents primaires, ou alors ça prendrait des dizaines et des dizaines d'années. Ce que nous montre l'histoire, c'est que on a déjà eu dans le passé des niveaux d'endettement public encore plus élevés, mais c'est avec des mesures exceptionnelles. Donc en particulier à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, il faut vraiment se rappeler que l'Europe s'est construite sur des annulations de dettes, notamment au bénéfice de l'Allemagne, hein, qui est la France, qui sont sortis de la Seconde Guerre mondiale, qui avait en 1950 200% du PIB en dette publique, donc deux fois plus qu'aujourd'hui, autant que la Grèce aujourd'hui, mais sur des pays beaucoup plus gros. La bonne nouvelle, c'est qu'on s'en est sorti, c'est-à-dire dès 1955, il n'y avait plus de dette publique, mais ces dettes, on s'en est sorti parce que ça a été un ensemble d'annulations de dettes, donc en particulier l'Allemagne et la France, qui aujourd'hui donnent des leçons à la Grèce, etc., n'ont jamais remboursé ces dettes. L'Allemagne, en particulier en 1953, a bénéficié d'une annulation de l'ensemble de sa dette extérieure, ou plus précisément, ça a été repoussé à l'unification allemande, puis en 1991, on a dit, bon, c'est tout ça, c'est vieux, allez, on annule définitivement. De toute façon, aucun mécanisme d'indexation n'avait été prévu sur l'inflation, tout ça. Donc, je veux dire, c'est comme ça qu'on a construit l'Europe, et aujourd'hui, là, il y a une amnésie historique en Allemagne, mais aussi en France. Donc, concrètement, dans la primaire actuellement, je pense qu'on a, deux candidats. Bon, il y a quatre candidats principaux, il y en a sept officiellement, mais on va voir ce soir, malheureusement, que c'est pas facile de débattre à sept. Donc, essayons d'en rester sur les quatre principaux. Sur les quatre principaux.
La droite y est parvenue, quand même. Hein.
Sur les quatre. Oui, c'était pas formidable, ces débats. Moi, je me suis forcé à les regarder, mais franchement, c'était pas toujours. Donc, on va voir ce que ça va donner ce soir. Moi, j'ai peur qu'à sept, on se rende compte une fois de plus que c'est pas facile. Mais qu'importe, il faut essayer de faire le mieux de ce qu'on a sous la main. Hein. Toujours est-il que dans les quatre principaux, on en a deux, Valls et un degré moins de Payon, qui sont quand même plutôt pour le statu quo européen. C'est-à-dire qui, dans le fond, disent, voilà, le traité budgétaire européen de 2012, on continue comme ça. Il y en a deux, Hamon et Montebourg, qui critiquent plus nettement, mais qui, pour l'instant, moi, je trouve qu'ils ont pas encore vraiment articulé de proposition de refonte, parce que, dans le fond, ils ont aussi participé quand même à la ratification de ce traité.
Il veut casser la vaisselle, Montebourg. Il veut casser la vaisselle.
Oui, non, mais c'est très bien de casser la vaisselle, mais ça, Mélenchon, il est très fort aussi pour casser la vaisselle. Mais moi, ce que je voudrais plutôt, c'est que Mélenchon, comme Montebourg, comme Hamon, mettent sur la table des propositions concrètes pour remplacer le traité budgétaire européen. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on refusait les règles budgétaires automatiques, avec un déficit réduit à 0,5% du PIB, etc. Ce qui, dès que les taux d'intérêt remonteront, voudra dire des excédents primaires très forts. Parce que quand on a 100% du PIB en dette publique, dès qu'on a des taux d'intérêt qui remontent, en fait, faut faire, pour simplement rembourser les intérêts, il faut faire des excédents très forts. Ça porte sur des sommes énormes. Et c'est une très mauvaise idée de s'empêcher d'investir dans la croissance, dans l'information pour toutes les décennies à venir. Donc, si on veut remplacer ces règles-là, il faut dire par quoi ? Moi, je pense qu'on a trop longtemps contourné la démocratie en Europe, c'est-à-dire qu'on peut pas remplacer la démocratie, le vote du niveau de déficit, le vote d'un impôt commun sur les sociétés par un parlement de la zone euro, par des règles automatiques. Alors, le problème, c'est que l'Allemagne est très attachée, en tout cas, une partie des élites allemandes sont très attachées à ces règles automatiques, malgré leur échec manifeste. Donc là, il y a besoin d'un véritable bras de fer démocratique. Moi, je reste convaincu que si la France mettait une proposition crédible sur la table, eh bien, l'Allemagne serait obligée d'accepter un compromis.
Pour quelle raison elle accepterait ?
Pour une raison simple, c'est que l'Allemagne représente 27% de la population et du PIB de la zone euro. La France, l'Italie et l'Espagne, 50%. Et ensuite, il reste 23% qui sont le Portugal, la Grèce, la Belgique, l'Autriche et les autres pays. Donc, il y a une réalité humaine, économique, financière de la zone euro qui est celle-là. Et je suis convaincu que si la France, avec l'Italie, l'Espagne, mais aussi d'autres pays, la Belgique, la Grèce, mettait sur la table une vraie proposition de refondation démocratique de la zone euro, je pense que l'Allemagne aurait peur sans doute d'être mise en minorité dans un tel parlement de la zone euro. Et aurait peur, effectivement, je pense qu'il y aurait eu moins d'austérité. Plus de croissance, finalement. Donc, dans un premier temps, l'Allemagne aurait peur. En même temps, ce serait très difficile de dire non. Et si l'Allemagne disait non à une proposition concrète d'un parlement budgétaire de la zone euro avec un choix du niveau de déficit de relance économique à travers une règle de la majorité, où chaque pays est représenté en proportion de sa population. Si l'Allemagne disait non à ça...
On s'en va ?
Je crois que, disons, 5 ans ou 10 ans plus tard, la situation n'est pas tenable. C'est-à-dire que là, il y aurait... Mais c'est important que les choses soient dites publiquement. Et si elles étaient dites publiquement dans ce sens, je pense qu'effectivement, ça deviendrait l'ensemble de la construction deviendrait assez peu tenable, objectivement. Mais je pense que l'Allemagne, qui est très attachée à la zone euro, l'idée européenne, serait obligée d'accepter un compromis, parce que dans le fond... Demander la démocratie parlementaire avec la règle de la majorité pour choisir le niveau de déficit, pour choisir le niveau de comment on gère la dette, parce que tout ce système d'annulation de dette publique dont l'Allemagne a bénéficié une fois de plus en 1953, qui est l'Allemagne, le pays qui n'a jamais remboursé ses dettes publiques au cours du XXe siècle. Et c'était un bon choix, parce que c'est ça qui a permis... Juste derrière ces enjeux financiers, c'est d'abord des enjeux humains. C'est-à-dire le choix qui a été fait dans les années 50, c'était un choix consistant à dire aux jeunes Allemands, aux jeunes Français, écoutez, vos parents ont fait toutes sortes de bêtises, toutes sortes d'erreurs, ont accumulé des dettes, ont accumulé bien pire que des dettes financières d'ailleurs, mais on va faire le choix maintenant de l'avenir. C'est-à-dire qu'on va investir dans l'avenir, investir dans l'éducation, la formation, les infrastructures, et c'est comme ça qu'on a bâti la croissance des années 50, 70.
Et c'est ce que vous prenez, vous, Thomas Piketty, encore pour aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est que vous faites partie de ces économistes qui glissaient sur le terrain politique. Pour vous, la réponse ou le remède à la crise de la zone euro n'est pas économique, elle est avant tout politique, et vous allez dans ce sens aussi, un peu comme l'économiste Michel Aglietta récemment, qui a publié un essai sur le sujet, la double démocratie,
oui,
qui est très intéressant, les failles structurelles de l'Union européenne. Et comme vous l'avez lu, vous savez qu'il appelle à répondre par un acte fondateur à tout ça, qui serait pour lui un budget commun. Alors est-ce que ça peut être une solution ? Il y en a d'autres qui sont mises en avant, là encore, par des économistes, et on pense bien sûr à Joseph Stiglitz, qui lui aussi s'est préoccupé de la situation de notre Europe et de notre zone euro, et qui appelle à abandonner la monnaie unique pour sauver le projet européen, puisqu'on n'arrive pas à faire toutes les réformes que vous espérez.
C'est un peu pessimiste, et je trouve qu'on n'a pas besoin de Joseph Stiglitz pour que les forces, disons, du démembrement et les forces nationalistes poussent vers la sortie de tout ça. Donc moi, j'aurais préféré que Joseph Stiglitz, enfin, que j'aime bien par ailleurs, essaye de faire preuve d'imagination sur comment on pourrait faire que ça marche, cette construction.
Bah, il le fait, il a un plan de sauvetage pour sauver l'euro, mais il est tellement long, plus long que mon bras. Mutualisation des dettes, revenir sur la règle des 3%.
On a besoin, je crois, dans ce contexte difficile où on a des pressions nationalistes, des pressions européennes nationales extrêmement fortes, je pense que les intellectuels sont plus là pour essayer de trouver des façons constructives de faire marcher.
Ça pourrait se concevoir. On dit ça marche pas, on arrête, les Anglais sont hors de la zone euro, voilà.
Oui,
tout va bien.
Non, bien sûr, simplement l'idée qu'on va se retrouver après avec notre monnaie soumise aux pressions régulation des marchés financiers, on va être soumis à des forces de concurrence fiscale et financière encore plus fortes. L'idée que quelque chose de bon sortira de tout ça, vous savez, je crois surtout que quand on déclenche les forces nationalistes, d'Europe nationaliste, personne ne sait très bien qui ensuite sera au contrôle de tout ça. Et en fait, on déclenche des forces dont on n'a pas idée. Et ceux qui, à la gauche de la gauche, disent « vous inquiétez pas, ce sera des gentils internationalistes comme nous qui assureront que tout ça ne part pas trop dans le décor », je pense sont un peu des apprentis sorciers. Parce qu'une fois qu'on a donné raison au message de repli nationaliste...
Sortir de l'euro, c'est donner raison aux forces ou déclencher les forces de repli nationaliste.
Je pense en tout cas qu'il est temps de donner une vraie chance à une refondation démocratique de la zone euro, en mettant sur la table, comme je disais, une proposition d'un Parlement démocratique. Et on verra à ce moment-là si un pouvoir politique arrivant en France met cette proposition sur la table, si l'Allemagne ou les autres partenaires le refusent. Mais pour l'instant, ça n'a pas eu lieu. Donc, je veux dire, Jean-Luc Mélenchon... Non, mais il suffit pas de parler. Il faut dire des choses précises, parce que vous comprenez, il y a une telle méfiance. Non, mais c'est très important de dire précisément comment on construit cette chambre parlementaire de la zone euro. Moi, d'après moi, en proportion de la population de chaque pays, à partir de députés des parlements nationaux, parce qu'on ne peut pas contourner les parlements nationaux si on veut bâtir une souveraineté parlementaire au niveau de la zone euro, il faut s'appuyer d'abord sur les souverainetés parlementaires nationales. Ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été fait. Je pense que c'est nouveau et ça peut permettre, d'une certaine mesure, de débloquer la situation. Il y a peut-être d'autres solutions.
Et quel pouvoir les États lui accordent ? Qu'est-ce qu'elle devrait avoir comme prérogative, cette chambre, Si elle en a aussi peu que le Parlement européen, c'est...
Non, mais là, c'est très simple. C'est toutes les décisions qui, actuellement, sont entre les mains du Conseil des ministres des Finances de la zone euro, devraient être transférées à cette Chambre parlementaire de la zone euro. Donc, de quoi parle-t-on ? D'abord, le choix des niveaux de déficit. Donc, actuellement, on a des règles automatiques qui sont beaucoup trop rigides. Et ensuite, le Conseil des ministres des Finances les valide, fait des exceptions, met des amendes, met pas d'amendes. Ça ne marche absolument pas. La restructuration de la dette grecque, ça fait des années que le Conseil des ministres des Finances de la zone euro est censé décider quelque chose, c'est toujours repoussé. Avoir enfin un impôt commun sur les bénéfices des grandes sociétés, de façon à ce que les grandes sociétés paient au moins autant que les plus petites, on en parle depuis des années, il n'y a pas le début de commencement de quelque chose. Pourquoi ? Parce que cette structure, le Conseil des ministres des Finances de la zone euro, ou le Conseil des chefs d'État de la zone euro, structurellement conduit à l'inertie, à l'absence de décision. Pourquoi ? Parce que soit vous avez structurellement un droit de veto sur la fiscalité, le Luxembourg ne veut pas d'impôt sur les sociétés, hop, on ne peut rien faire. Soit, même sur les décisions qui, en théorie, sont prises à la règle de la majorité, le problème, c'est que de facto, vous avez un droit de veto de chacun des grands pays. Et en particulier, donc, si l'Allemagne ne veut pas de restructuration de la dette grecque, on repousse ça toujours. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, quand vous mettez une seule personne autour de la table pour représenter 85 millions d'Allemands ou 65 millions de Français, comment voulez-vous prendre une décision à la majorité de façon apaisée ? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir cette personne qui retourne chez lui, qui dit « voilà, je représente 85 millions de personnes, mais pas de chance, on était dans la minorité. Mais le coup suivant, peut-être qu'on sera dans la majorité. » C'est une machine à produire de l'inertie, à produire de l'affrontement d'internationaux. Alors que si on avait 20, 30, 40 députés issus de tous les groupes politiques du Bundestag allemand, de l'Assemblée nationale française, qui devait prendre une décision à la majorité sur la restructuration de la dette grecque. D'abord, ça aurait beaucoup plus de légitimité démocratique. D'abord, il y aurait de la délibération publique. Et on se rendrait compte que tous les Allemands ne sont pas d'accord, évidemment, qu'il y a des gens de gauche, des gens de droite, en France aussi, dans tous les pays. Et on arriverait à dépasser ces clivages nationaux, cet affrontement des intérêts nationaux. Actuellement, le Conseil des ministres des Finances ou le Conseil des chefs d'État, qui est l'organe central qui est supposé diriger la zone euro, l'Union européenne, c'est une machine à fabriquer des affrontements d'intérêts nationaux. C'est une machine à faire détester l'Europe. Ils n'arrivent même pas à avoir des délibérations publiques parce que justement, c'est tellement tendu de savoir ce qu'une personne défendant 85 millions de personnes va évoquer comme argument qu'on préfère que personne s'en rende compte. Donc tout ça se passe à huis clos. On nous explique régulièrement au milieu de la nuit, à 4 heures du matin, qu'on a sauvé la zone euro pour la 50e fois depuis 15 ans. Et on se rend compte dans la journée qui suit qu'eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils ont décidé pendant la nuit. Parce que tout ça se passe à huis clos. Donc la démocratie, ça s'organise. Et refuser de parler de ces questions d'organisation de la démocratie, d'institutions démocratiques, au motif que c'est trop technique et on s'en fout, et tout ça, c'est des détails, eh bien c'est ça qui laisse libre cours aux forces de la concurrence économique exacerbée, aux forces des marchés financiers qui, eux, n'ont pas besoin, effectivement, d'institutions démocratiques pour fonctionner. Enfin, en fait, ils en ont besoin d'état de droit, d'infrastructures publiques, d'éducation, mais ils s'imaginent qu'ils peuvent s'en passer. Et donc, il faut accepter de parler de tout ça. Et moi, c'est de ça dont j'aimerais qu'on parle dans le débat de ce soir, et que les candidats parlent.
Vous aimeriez qu'ils en parlent. Thomas Piketty, dans Aux urnes, citoyens, votre recueil de chroniques, on se rend compte que toutes vos contributions et toutes vos idées sont quand même ponctuées de « il faut », »,« il aurait fallu », »,« Hollande aurait été bien inspiré de », »,« il est temps de le reconnaître et de changer et de s'en charger ». Tout ça mis bout à bout fait de vous quelqu'un d'assez admirable dans la croyance que vous portez ou la confiance que vous portez encore dans les institutions et dans les hommes qui portent ces institutions, notamment pour reprendre le contrôle sur ce capitalisme inégalitaire que vous décrivez. Alors à partir de là, il va vous falloir quand même un candidat pour porter ces idées. On l'entend, ce sera notamment ce qui déterminera votre choix, ce sera aussi sur la question européenne. Oui. Ça sera un des enjeux principaux pour vous.
Oui, moi je voudrais que Benoît Hamon, Arnaud Montebourg soient plus précis dans leurs propositions de refonte de la zone euro. Est-ce qu'ils veulent, oui ou non, remettre en cause le traité budgétaire de 2012? Mais dans ce cas-là, quelles sont exactement les propositions qu'ils formulent pour le remplacer? Bon, après, il y a aussi d'autres enjeux. Je pense qu'il y a des propositions intéressantes sur l'impôt progressif sur le revenu, l'impôt progressif sur le patrimoine, le revenu universel qui sont faites par Benoît Hamon. Je pense qu'il pourrait être mieux articulé parce que je pense que le revenu de base, la justice sociale, ça s'arrête pas à 500 ou à 800 euros par mois. Donc il faut articuler ça avec un ensemble de propositions sur notamment l'impôt progressif, sur le revenu, le patrimoine, sur c'est l'ensemble de la répartition.
Le revenu universel.
Oui, ce que je dis, c'est que ça peut pas suffire. Il faut mieux articuler les propositions qui sont faites sur le revenu universel avec l'impôt progressif sur le revenu. C'est-à-dire le vrai enjeu pour moi sur le revenu universel, vous voyez, c'est que ce soit vraiment couplé avec un impôt progressif sur le revenu prélevé à la source, de façon à ce que tous les gens qui ont des bas salaires en particulier puissent avoir un salaire net plus élevé directement sur leur bulletin de salaire.
Alors, puisque vous
ça ne sert à rien de beaucoup prélever à la source. Un SMICard actuellement, juste c'est 1400 euros brut à plein temps. Sauf qu'en fait, chaque mois, vous êtes à 1100 euros net. Parce qu'il y a 300 euros de CSG, de cotisation. Et après, on va dire, bon, alors si vous allez demander votre revenu de base ou actuellement votre RSA, trois mois plus tard, vous toucherez l'équivalent de 100 euros par mois. En plus, bah attendez, ce serait peut-être plus simple de moins prélever à la source. Au lieu de prélever 300 euros à la source, puis après les gens font la demande, on leur redonne 100 euros, pourquoi on ne dirait pas qu'on prélève simplement 200 euros à la suite? Et comme ça, vous avez un SMIC net de 1200 brut au lieu de 1100 brut, c'est toujours ça de prix. Hein. Donc, pour moi, le vrai enjeu, vous voyez, c'est plutôt que de demander aux gens d'aller demander aux administrations de sécurité sociale un transfert, on ferait mieux de moins leur prélever à la source. Donc, c'est pour ça que la question de l'impôt progressif.
Juste une chose, Thomas Piketty, le revenu de base, pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent, revenu universel, c'est effectivement l'une des propositions du moment les plus débattues. Écoutons quand même ce que les candidats à la primaire de la gauche, enfin du Parti Socialiste, en disent.
À mes yeux, le revenu universel d'existence versé à toute personne majeure, en plus de son salaire, de sa retraite, des revenus qu'il a aujourd'hui, est le moyen de redonner de l'autonomie aux individus par rapport au travail.
C'est un peu le dernier truc à la mode, si vous me permettez l'expression, ce revenu de base. Mais dès qu'on creuse un peu, plus personne ne dit ou ne pense à la même chose. Alors Benoît Hamon, il est un peu plus précis, il faut le reconnaître, et il dit 300 milliards de coûts. 300 milliards! Mais on les trouve où, les 300 milliards?
Idée, je pense que c'est dramatique sur le plan humain de dire aux gens, notre projet, c'est de ne pas travailler. C'est dramatique de dire, une fois que je vous aurai versé 750 euros, je ne veux plus m'occuper de vous parce que dans le fond, c'est une solidarité d'exclusion.
L'esprit d'une société qui se réinvente, c'est une société qui a pour objectif de faire en sorte que l'ensemble des forces de son pays se mettent au travail et ensemble.
Depuis plusieurs mois, je réfléchis sur la question du revenu décent, qui n'a rien à voir avec le revenu universel, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de donner à tout le monde 800 euros, il s'agit de fusionner les 10 minima sociaux, mais en le liant toujours au travail. Moi, je suis pour une société du travail.
Donc, tour à tour, Benoît Hamon, François de Rugy, Arnaud Montebourg, Manuel Valls. Sur votre blog, Thomas Piketty, vous estimez que le débat sur le revenu de base a au moins un mérite, celui de rappeler qu'il existe un certain consensus en France sur le fait que chacun doit disposer d'un revenu minimum. Mais pour vous, le problème de ce débat, c'est qu'il passe à côté des vrais enjeux et qu'il exprime une conception au rabais de la justice sociale. Au revenu de base, vous préférez, en somme, un salaire juste. Qu'est-ce que c'est ?
Bah, ça comprend le revenu de base, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire que ça implique un impôt progressif sur le revenu qui permet de réduire les écarts de salaire. Ça
que vous évoquiez à l'instant.
Oui, ouais, mais ça implique aussi beaucoup d'autres institutions. D'abord, ça passe par l'éducation, parce que quand vous avez un investissement très inégalitaire dans l'éducation, où en fait la dépense publique par élève est beaucoup plus faible, souvent pour les personnes issues de milieux défavorisés qui vont dans des filières universitaires beaucoup moins bien dotées que les filières élitistes, ou qui vont dans des écoles ou des collèges où il y a beaucoup plus de contractuels, de professeurs peu expérimentés, qui fait qu'on dépense moins par élève, malgré tous les discours, dans les établissements plus défavorisés que dans les plus favorisés. Donc, de facto, on a une dépense publique qui exacerbe les inégalités. Ça passe aussi par des syndicats qui négocient des grilles de salaire, parce que ça fait partie de ce qui marche. Si vous regardez en Suède, en Allemagne, vous avez entre un tiers en Allemagne, la moitié en Suède des voix au conseil d'administration des entreprises qui sont pour les représentants de salariés. Ça conduit à des grilles de salaire plus resserrées et faire finir à un plus grand investissement des salariés et pour finir à une plus forte efficacité productive, parce que ce sont des pays qui marchent mieux, quoi qu'en disent les patrons en France qui ne veulent pas entendre parler de cette présence des représentants des salariés. Donc, c'est tout un ensemble d'institutions. Alors, l'impôt progressif dans tout ça est important, et c'est vrai que si on prend les propositions de Benoît Hamon, je trouve que là, ça a besoin encore d'être clarifié. Parce que d'un côté, il nous parle d'un revenu de base, d'un revenu universel. De l'autre, il dit « je veux aussi un grand impôt progressif sur le revenu prélevé à la source, fusion de la CSG, de l'impôt sur le revenu ». Ok, très bien. Moi, je pense qu'il faut que, pour que ce soit vraiment automatique, cette question du revenu de base, et il faut que ce soit sur le bulletin de salaire. Pour tous ceux qui ont un emploi, évidemment, ceux qui n'ont pas d'emploi, là, il faut bien que ce soit les caisses de sécurité sociale qui le versent. Mais pour tous ceux qui ont un emploi, dès lors que vous avez un emploi stable, mettons à partir de 80% du plein temps au SMIC ou 70%, ce qui est prélevé à la source en cotisation sociale et en CSG est d'ores et déjà supérieur à tout ce qu'on pourrait verser comme transfert. Donc il faut commencer par moins prélever à la source. Et vous voyez que tout le débat sur le financement, les fameux 300 milliards, s'en retrouve complètement transformé, parce que ce qui compte... De toute façon, on ne va pas créer 300 milliards comme ça. Il faut avoir les impôts correspondants. Donc, si l'impôt est prélevé à la source, prenez quelqu'un qui a 2000 euros par mois de salaire. Bon, c'est bien joli de lui donner 500 euros par mois de revenu de base. Mais si, dans le même temps, pour financer tout ça, il faudra lui augmenter de 500 euros par mois les impôts et que tout ça se passe sur le même bulletin de salaire prélevé à la source, bon, bah, en gros, vous n'avez rien changé. Donc, ce qui compte, c'est en net. C'est de voir en net par rapport à l'impôt sur le revenu qui est prélevé à la source, qui est sur le point d'être en place en France. Donc, dans tout ce débat, on oublie un petit peu de plus lier les deux. Mmh. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens de demander aux personnes qui ont un emploi, qui ont un bulletin de salaire avec déjà beaucoup d'argent prélevé à la source sur leur bulletin de salaire, d'ensuite aller aux caisses de sécurité sociale pour demander un revenu.
L'important, c'est quand même ceux qui n'ont pas du tout de revenu, qu'on va leur donner un revenu minimum pour...
Oui, mais dans le revenu universel, c'est toute la population.
Oui, je comprends bien, mais là, vous parlez des problèmes de ceux qui n'en ont pas. Mais pour ceux qui en ont des problèmes, est-ce que ce n'est pas une solution quand même ?
Non, alors pour ceux qui n'en ont pas, je pense qu'effectivement, le système devrait être beaucoup plus automatique. Et vous savez, actuellement, un des problèmes du RSA, notamment pour toutes les personnes qui ont des bas salaires, c'est que parce que la procédure est complexe pour le demander, parce que ça peut être stigmatisant d'aller le demander, beaucoup des personnes qui y ont droit, en fait, ne le touchent pas. Et c'est là que la question du versement automatique sur le bulletin de salaire, donc là, il n'y a rien à demander, est très importante. Alors après, il y a tous ceux qui n'ont pas d'emploi du tout. Donc là, il n'y a pas de versement automatique sur le bulletin de salaire. Et là aussi, il faut que les procédures soient simplifiées. Alors, il y a toute la question de l'accès des jeunes.
Oui, et pour la jeunesse, il y a de nouveau cette idée d'un patrimoine minimum universel, cette fois qui avait été, idée qui a été relancée là par François Hollande. Ce serait quoi, un patrimoine départ pour les jeunes sous la forme d'un prêt garanti par l'État ou d'un don financé par l'impôt sur l'héritage? Ça, c'était plutôt la proposition telle qu'elle était formulée par l'économiste Anthony Adkinson, qui était cédé début janvier, le 1er janvier, qui d'ailleurs vous rendit hommage, pour sa démarche sur la question des inégalités qui était centrale et d'avoir démontré que l'économie, un peu comme vous cherchez à le faire, est avant tout une science sociale et morale. Beaucoup d'autres propositions dans la besace économique. Il y a un projet à refonder, vous le rappelez à l'instant, une grande réforme fiscale probablement à mener, Thomas Piketty. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais juste en revenir à Donald Trump, à cette élection qui a quand même probablement changé un peu la face du monde dans les prochaines années. Quel que soit le candidat de la gauche, vous dites qu'il devra constituer une alternative et tenir compte dans son projet de ce nouveau monde en constitution. Assez récemment dans le Guardian, vous disiez que on doit repenser la mondialisation ou le Trumpisme vaincra. Ça veut dire quoi ? Comment il faut réorienter la mondialisation ?
Je pense que ça n'a plus de sens d'avoir des traités internationaux qui soient des traités purement commerciaux, qui fassent de nouvelles libéralisations commerciales. Je pense qu'on a besoin de traités internationaux qui soient des traités d'un nouveau type pour organiser la mondialisation, qui peuvent contenir des éléments de commerciaux quand il s'agit d'harmoniser certaines normes entre le Canada, les États-Unis et la France, mais ça doit venir en troisième ou en quatrième chapitre, et ça doit pas être la finalité. C'est-à-dire les premiers chapitres des prochains traités, ça doit être d'abord d'avoir un modèle plus équitable, plus durable de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple des taux minimum d'impôts sur les sociétés, sur les grandes sociétés. Ça veut dire des cibles contraignantes d'émissions carbone. Vous voyez, c'est pas normal que quand on parle d'impôts justes ou de développement durable, on se contente de proclamations de principes non contraignantes. Et puis par contre, l'année suivante, après l'accord de Paris, quand là on fait un traité commercial, alors là on est vrai avec le Canada, là on est dans le contraignant, avec des sanctions si c'est pas appliqué, avec même des cours d'arbitrage qui permettent aux entreprises de contourner la justice publique pour ensuite imposer des pénalités aux États parce que les États ont daigné changer les régulations. Donc là, d'un seul coup, on est dans le dur du dur, dans le contraignant du contraignant. Et par contre, quand on veut faire un impôt commun sur les sociétés, on dit ah non, là c'est impossible, on peut pas contraindre les États, etc.
Donc, c'est quand même aussi le héros aujourd'hui du protectionnisme. Il s'est érigé là-dessus. Il prône le retour des barrières tarifaires, la fin des délocalisations. Ouais. Alors, est-ce que plutôt que de réorienter la mondialisation, il ne faudrait pas plutôt commencer à penser la démondialisation?
Vous allez voir qu'en fait, Donald Trump, c'est en vérité une fuite en avant vers le dumping fiscal et social. C'est-à-dire que la proposition principale de Donald Trump pour essayer de rapatrier des usines aux États-Unis, c'est une énorme baisse de l'impôt sur les sociétés qu'il propose de faire passer de 35% à 15%. Là, il faut bien se rendre compte, ça veut dire parce que jusqu'ici, les États-Unis, d'une certaine façon, avaient résisté à la course-poursuite à la baisse sur l'impôt sur les sociétés qui est en fait venue d'Europe. Parce que c'est l'Europe, à cause de son morcellement politique, qui depuis 20 ans est dans cette course-poursuite où on était tous à 30 ou 35 ou 40% de taux d'impôt sur les sociétés il y a 30 ans. Puis petit à petit, on s'est retrouvé avec l'Irlande à 15 et d'autres qui veulent aller à zéro. Jusqu'ici, les États-Unis, parce que c'est un impôt fédéral, un gouvernement fédéral, avaient résisté à cette situation. Là, avec Trump, pour la première fois, on va passer à 15. Ce qui va beaucoup changer les choses, parce que l'Irlande, qui est actuellement à 15, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont passer à 5, et quand on sera tous à 0, qu'est-ce qu'on fera? On fera des subventions. Donc, pour faire venir les investissements, donc on sera en négatif. Et après, comment on financera les infrastructures publiques, les systèmes de formation? On surtaxera les personnes captives, c'est-à-dire les classes populaires, les classes moyennes, dont on s'étonne après qu'elle soit pas totalement convaincue par la mondialisation telle qu'elle fonctionne actuellement. Et donc Trump, en fait, ça va être un saut en avant pour aller plus loin dans cette direction. Lui, il s'en sort en antagonisant le conflit politique sur une base raciale, hein, c'est quand même très clair, c'est-à-dire qu'il joue une très grande majorité sur les 70% d'électeurs blancs aux États-Unis contre les 30% de latinos. J'ai très peur que ce type de racialisation du conflit politique face aux immigrés, face aux populations d'origine immigrée, soit aussi quelque chose qu'on observe en France.
Merci beaucoup, beaucoup Thomas Piketty. Aux urnes citoyens, votre recueil de chroniques, le dernier paru à l'automne, au lien qui libère, est toujours bien sûr disponible en librairie. Vous pouvez, dans la lignée des réflexions que vous avez ouvertes aussi à l'instant, ce midi, lire la tribune de Zaki Laïdi, intéressante. Après le socialisme, il y aura toujours la gauche, c'est dans le monde aujourd'hui. Vous pouvez aussi retrouver toutes les informations en lien avec l'émission à la page de la Grande Table sur franceculture.fr, émission conçue par Claire Maillot et Clémence Marie, préparée par Nicolas Dutant et Henri Leblanc. Merci beaucoup à Iso Tsikar et Inès McGriff pour leur aide précieuse. Aux manettes ce jeudi, Perret Legras avec Anthony Thomasson. Demain, Kerry James, le rappeur en première partie de La Grande Table, et un retour sur l'œuvre de Sigmund Bauman, le sociologue décédé en début de semaine.